Nous allons pouvoir, je pense, terminer l'étude de la famille chrétienne. Nous sommes arrivés maintenant à considérer les rapports entre les parents et les enfants. Les liens naturels qui unissent les parents et les enfants ont certes leur origine en Dieu, puisque Dieu a voulu fonder la famille comme cellule de base nécessaire de la société humaine. Mais ces liens naturels, et nous insistons sur le qualificatif de naturel, ce qui veut dire les liens tels qu'ils apparaissent dans la société entre parents et enfants, tels qu'ils apparaissent en somme parmi des hommes nés de chair. Eh bien, ces liens naturels ont toutes les déformations que le péché leur inflige, et principalement l'orgueil et l'égoïsme. L'orgueil et l'égoïsme, ces deux forces qui agissent pour corrompre tout ce qui, à l'origine, venait de Dieu. Il y a bien dans toute affection une velléité au dévouement, mais ce dévouement ne sait pas s'exercer pour le seul bien de l'être aimé, aussi bien du côté parent que du côté enfant. Et le dévouement subit encore la contradiction de l'égoïsme. Dans le monde, tout est contradiction. Il y a des choses qui vont dans un sens, quelquefois le bon sens, et immédiatement après, dans le sens contraire. Alors tout cela, toutes ces affections, ces rapports entre ces liens, entre parents et enfants, tout cela a besoin d'être sanctifié dans la famille. Et la famille est bien le lieu où cette sanctification doit se faire. Où se ferait-elle si elle ne se faisait pas là? Prenons un exemple. Pensons à la plupart des mères non chrétiennes qui se sont dépensées en toutes sortes de soins pour élever leurs enfants, pour épargner leur santé, et qui, lorsque l'adolescence est venue, les livre à tous les dangers de la vie, les pousse même à tout connaître, à tout prendre, et contribue ainsi à leur souffrance, voire même à leur malheur. Ça, c'est quelque chose de flagrant et qui se rencontre, hélas, si souvent. Des mères se sont dépensées en des soins magnifiques, peut-on dire, pour protéger l'enfant petit et puis l'enfant devenu grand. Voilà, on le livre par une sorte d'amour, parce que ces mères diront bien que ce qui les pousse à accorder toutes sortes de choses à leurs enfants, c'est bien l'amour, l'amour maternel, et cet amour va les pousser vers le mal. Nous, on voit même alors que si jamais le témoignage de l'Évangile se présente, certaines mères farouchement se saisiront de leurs enfants pour les empêcher d'entendre l'Évangile, d'aller à quelques réunions, de lire la Bible. Tout cela pour mieux les livrer au monde, car la pensée de ces mères, c'est qu'il faut que leur progéniture paraisse au monde, entre dans la lutte du coude à coude du monde, se fasse place dans le monde, que leur personnalité s'affirme. Et ainsi, Vous voyez, l'amour maternel, pour l'appeler toujours ainsi, va livrer les enfants à la mort. Et ça, nous le voyons constamment. Alors, c'est un sujet de réflexion, bien sûr. Faut y penser à cela. Quels sont les pères et les mères qui pensent vraiment au bien de leurs enfants, selon l'Évangile? Ne pensent-ils pas trop souvent beaucoup plus aux études, à la situation, aux gains, aux rangs? C'est dans ce sens qu'ils poussent leurs enfants, ou encore ils usent avec eux d'une telle faiblesse, d'un tel désir de les gâter en tout, qu'ils les éloignent ainsi de la voie du salut, de la voie de la vie, de la voie du bien. Voilà, chers amis, quelque chose d'infiniment grave. L'affection des parents pour leurs enfants, si vive soit-elle, pourra donc entraver la bonne éducation, la véritable éducation. Il y aurait tout un chapitre à ouvrir à ce sujet, bien sûr, sur l'éducation des enfants, la véritable, l'éducation d'après Dieu, l'éducation à la lumière de la vérité, naturellement. Il ne s'agit pas d'un type particulier d'éducation, il s'agit tout simplement de cette éducation qui, comme la vérité, ne peut avoir qu'un seul sens et qu'une seule figure. Ainsi, oui, les parents pourront entraver la bonne éducation des enfants, à moins que cette éducation ne soit vraiment éclairée et transformée par la foi des parents d'abord. Pour bien éduquer conformément au bien de l'enfant, conformément par conséquent à ce but qui devrait être le but de tous les hommes, le royaume de Dieu, la vie éternelle. Et pour conduire une telle éducation, il est indispensable que les parents aient eux-mêmes reçu l'éducation de Dieu. Je ne dis pas de leurs propres parents à eux, mais l'éducation de Dieu, pour bien conduire les autres. Il y a une condition pour bien conduire les autres. Il faut avoir appris soi-même à obéir, et à obéir à Dieu. L'amour des parents pour leurs enfants sera donc, dans la famille chrétienne, devra être dans la famille chrétienne éclairé par la foi et par la connaissance des voies de Dieu. Cet amour aura pour tâche de préparer le règne de Dieu dans le cœur des enfants, et il engendrera par conséquent l'amour envers Dieu en tout premier lieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Alors ça, c'est le premier commandement, en tout premier lieu, l'amour de Dieu. On pourrait ajouter que de développer l'amour de Dieu dans le cœur des enfants, c'est ça l'éducation en priorité. C'est ça le principal de l'éducation. Voyons un texte, Deutéronome, chapitre 4, et verset 9. « Seulement, prends garde à toi, et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants. Mais toi-même, attention, nous dit le Saint-Esprit, fais bien attention que ces choses ne sortent pas, que tu ne les oublies toi-même. Alors si elles sortent de ton cœur, comment pourras-tu les enseigner? Voilà, n'est-ce pas, voyez, en un simple verset, tout un programme, tout un conseil. Il faut que les parents, par conséquent, exercent eux-mêmes cette vigilance à laquelle Dieu nous convie. Les parents auront donc à veiller sur eux, même à veiller, on pourrait dire, d'une façon particulièrement attentive. Ils veilleront sur eux avec beaucoup d'attention, car toute inconséquence, toute attitude ou parole condamnable qui serait de leur fait auront de graves répercussions sur les enfants, comme le Christ, les enfants ont à se sanctifier eux-mêmes pour les enfants. Le Seigneur Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Et voilà, n'est-ce pas, une direction, il n'y a pas de doute, dans la marche à l'exemple de Christ, les parents auront à se sanctifier eux-mêmes pour les enfants. Quand le Seigneur dit qu'il se sanctifie pour eux, il ne fait pas allusion, comme on le pense, d'une façon un peu légère, c'est-à-dire rapide, généralement. Il ne fait pas allusion à sa crucifixion. Elle est une chose, c'est une grande chose, sa crucifixion. Mais quand il dit qu'il se sanctifie, c'est-à-dire qu'il prend cette nature humaine, et tout au long de sa vie terrestre, cette nature humaine, il a veillé à la sanctifier, pour que, par voie de communication ensuite, les autres hommes recueillent le fruit de cette sanctification. Voilà donc quel a été le mode de Dieu, le mode choisi par Dieu, un homme en lequel était Dieu. Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Dieu était là. Dans un homme, mais un homme qui était comme les autres, une chair semblable à celle du péché, semblable à la nôtre, où le péché n'a jamais pu percer, prendre place. Et dans cette chair, il y avait toutes les velléités du péché, puisqu'il y avait la mort. Il y avait tout ce qui est provenu de la chute. Et le Seigneur Jésus, dans cette nature, a tout réformé. Il a rétabli l'obéissance à Dieu. Mais il a employé la lutte par larmes, avec des larmes, nous dit, et des supplications même. Il est allé chercher la force. Dieu a voulu qu'il lutte. Ça n'a pas été un faux semblant, ça. C'est une lutte dans une nature telle que la nôtre, que Jésus, en somme, a, on pourrait dire, dressé, rééduqué, tellement la nature de l'homme est loin de ce qu'elle était, de ce qu'elle doit être, pour entrer dans le royaume. Alors, le Seigneur Jésus a fait ce travail, on oublie souvent cela. Je me sanctifie moi-même, ce qui veut dire aussi, je me suis sanctifié moi-même. Je n'ai pas fait autre chose dans le cours de ma vie terrestre que de me sanctifier moi-même dans cette nature humaine que j'ai prise, à l'avantage de mes frères les hommes. Alors, voilà la direction. Les parents doivent avoir cette pensée, se sanctifier eux-mêmes pour leurs enfants. S'ils le font, leurs enfants seront sauvés, je vous l'assure. Leurs enfants seront sauvés. S'ils négligent cela, alors on ne sait plus. Si les parents ne vivent pas la vie chrétienne, ils ne seront pas en mesure de conduire leurs enfants dans la foi agissant. Prenons le psaume 103 et le verset 17. « Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. » Voyez, la bonté de l'Éternel dure à jamais, ou on peut dire à toujours, pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde dure aussi pour les enfants de leurs enfants. Mais il s'agit de ceux qui craignent l'Éternel. Si les parents gardent l'alliance de Dieu, leurs enfants recevront le bienfait de la bonté de Dieu. Ils recevront, voilà ce que ce verset nous affirme, ils recevront le bienfait de la bonté de Dieu, ils garderont eux aussi l'alliance, car ils y auront été préparés. Je peux prendre comme exemple ce frère dont on parle quelquefois, et que l'on connaît surtout par son livre, Christian Klopfenstein, qui est médecin à Besançon. Voilà, un médecin qui est jeune encore, et qui, à 10 ans, avait déjà en lui la vision chrétienne que ses parents lui avaient inculquée. Il a suivi l'école de son assemblée. Ses parents ont veillé sur lui. Des parents, il était dans une famille véritablement chrétienne. Eh bien, il a pu faire son cycle secondaire, entrer ensuite dans l'enseignement supérieur, en université. Il est resté chrétien. Et quand il est arrivé à la fin de ses études, il a voulu faire une thèse où la Bible ne fut pas absente, et il a fait sa thèse, c'est lui qui a fait cette thèse remarquable, thèse de doctorat en médecine, avec la Bible, où la Bible prend plus de la moitié de cette thèse. Voilà, n'est-ce pas, quelque chose de remarquable. Et maintenant, c'est un homme qui sert toujours, bien sûr, le Seigneur. De temps à autre, j'ai des informations sur ses activités, cela est intéressant, mais tout a commencé dans les 10 premières années. Et cela s'est poursuivi, bien entendu, ça n'a pas changé. Mais là, n'est-ce pas, là, c'est là que l'œuvre a commencé. Et cet enfant a été marqué. Fidélité du côté des parents, fidélité dans toutes les choses, petites ou grandes. Et ainsi, l'enfant a été l'objet de la bonté de Dieu. Et lui-même est entré dans l'Alliance. Et beaucoup d'autres, bien sûr. Nous pourrions en citer d'autres. J'en connais d'autres, c'est vrai. Je connais d'autres enfants élevés au milieu de parents authentiquement chrétiens. Il ne s'agit pas de dire « je suis chrétien parce que je suis membre d'une assemblée ». Ça ne va pas. Membre de l'assemblée, je dirais presque que c'est superfétatoire. Bon, c'est bon d'être membre de l'assemblée, il le faut. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui va faire que tu plais à Dieu et que tu fais l'œuvre de Dieu. Ce qui va faire que tu fais l'œuvre de Dieu, c'est que tu vis en chrétien. Tu vis une vie chrétienne. Nous lirons aussi dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 7. Le juste marche dans son intégrité. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Voilà une béatitude. Comme ils sont heureux, ces enfants, après lui. Et prenons toujours dans les Proverbes le chapitre 22 et le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ah. Je sais pas, moi, on n'a pas lu on ne croit pas en la Bible, on ne croit pas, parce que ça, on devrait l'avoir lu, on devrait avoir été attiré quand on est parent. Et quand on voit ses enfants, qu'on les aime, on les dit, mais c'est, et qu'on se dit, c'est petit, on les a engendrés, certes à la vie, ils sont nés de chair, Mais attention, les parents chrétiens doivent engendrer leurs enfants une deuxième fois à la vie nouvelle. Et cela se prépare dès les premières années. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Tu dois occuper ton temps dans la famille à faire cela. Et quand il sera vieux, quand il aura pris de l'âge, qu'il sera un homme mûr ou une femme d'âge, eh bien, il ne s'en détournera pas. Et Dieu étant le grand éducateur des hommes de foi, soyons donc les imitateurs de Dieu, comme nous dit l'Épître aux Éphésiens. Le monde fait toujours des choses mauvaises, abominables, qui détruisent, qui déforment ce que Dieu veut. C'est pourquoi il faut faire très attention et se laisser guider par la parole. En effet, le monde, lui, il a séparé l'éducation religieuse de tout autre. Deux choses qui sont tout à fait différentes. Il y a des familles chrétiennes où l'on se dit, bon, eh bien, on va donner à nos enfants une éducation religieuse. C'est très bien. Mais c'est une erreur flagrante que d'opérer cette séparation. L'éducation est la formation progressive du cœur et des pensées, ainsi que l'éveil du sens du beau et du bien. Ah, c'est très difficile dans notre temps, maintenant, parce que le sens du beau et du bien est devenu un sens esthétique corrompu. Même ça, ça s'est corrompu. J'ai l'ouvrage d'un professeur de Beaux-Arts qui est chrétien, et il montre dans son ouvrage, je ne me rappelle plus le titre de l'ouvrage, je l'ai en bibliothèque, il montre comment dans toutes les formes d'art la corruption des cœur a produit une corruption du sens du bien et du beau. Et aujourd'hui, on vous fait en effet des peintures. Si vous aimez ça, moi je ne sais pas. Je ne sais pas où vous allez chercher cet attachement, mais quand je vois des choses à bracadabrante, n'est-ce pas, moi je dis ça, c'est la folie de l'homme, tout simplement. Pas autre chose que la folie de l'homme. Où est le sens du beau? On vous présente des corps allongés, des corps tout déformés, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est l'esprit de révolte! C'est l'esprit de révolte! Et en musique? Alors en musique, on vous fait de la musique non écrite. Alors vous entendez tout à coup un chaudron qui tombe, après un miaulement, et une suite de bruits comme ça, absolument stupide. Il n'y a pas, non seulement il n'y a pas d'enchaînement, mais ce sont des bruits qui manquent complètement d'harmonie. Et on vous dit ça c'est la musique, ça c'est de la belle musique. L'homme est corrompu jusque dans son sens esthétique. Alors, vous voyez la tâche des parents. L'éveil du sens du beau et du bien. L'éducation est enfin l'apprentissage d'un mode de vie répondant aux principes élevés et spirituels de l'Évangile. Vouloir distraire de cette éducation l'élément spirituel n'aboutira qu'à paganiser tout simplement l'éducation et la ravaler au goût de ce monde déchu. Tout simplement. Les parents ont un héritage à transmettre à leurs enfants. Ou bien, ils vont transmettre l'héritage d'Adam. Oui, parce que nous sommes héritiers du premier Adam. Nous avons hérité de lui, dit la Bible, la vaine manière de vivre. Nous avons hérité. Et elle est devenue de plus en plus vaine au cours des âges. Alors, ou bien ils vont transmettre l'héritage d'Adam du devenu 20e siècle, ou bien alors ils vont transmettre l'héritage qui nous est annoncé et qui est déjà celui du second Adam, Jésus-Christ. Lequel des deux héritages vont-ils transmettre à leurs enfants? Les parents peuvent transmettre le péché et la perdition très bien, très facilement. Ou bien ils peuvent transmettre le fruit de la foi victorieuse en Jésus-Christ. Ils ont donné la naissance de chair à leurs enfants. Ils se doivent de les conduire à la naissance d'esprit. Ils s'y emploieront par leur exemple de chaque instant. D'abord, ils s'y emploieront aussi par leur prière. Ils s'y emploieront par la réalité de leur crainte de Dieu. Ce ne sera pas un vain mot, mais la réalité de leur crainte de Dieu. Ils verront, chemin faisant, au cours des jours, tout ce qui, dans les événements petits et grands survenant au sein de la famille, tout ce qui est achoppement, tout ce qui ne peut que faire le déplaisir de Dieu, tout ce qui est une offense à l'honneur de Dieu, tout, ils verront cela, sans passer dessus. Et ils habitueront leurs enfants à faire de même. Et j'ai vu des enfants même reprendre sur ce chapitre-là des parents, parce que les enfants reçoivent souvent très bien cette leçon-là, et ils reprennent leurs enfants, leurs parents, quand leurs parents sont en défaut. Je l'ai vu, cela. Et c'est très bien, et les parents devraient accepter ça. En somme, ils s'emploieront par un exemple soutenu à montrer à leurs enfants les réalités de la foi. L'éducation qui vient des parents s'exercera par une série d'actions, de paroles, d'exemples, mais devront-ils employer aussi les contraintes? Ah, nous venons sur le chapitre des contraintes. Non pas, non pas. Ce ne sont pas les contraintes qu'il faut employer. Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas, à certains moments, punir les enfants, bien sûr, les châtier. Ça, il faut que le châtiment soit employé avec la mesure nécessaire, mais employé aussi. Mais il ne s'agit pas de ça. Les contraintes, vont-ils user des contraintes? C'est-à-dire qu'ils vont obliger leurs enfants à prendre, à adopter à certains moments des attitudes qu'ils jugeront être celles de la foi, ils les imposeront aux enfants, qui peut-être par crainte d'un châtiment ou cédant à l'autorité des parents, adopteront ces attitudes et deviendront de parfaits hypocrites. Non, il faudra au contraire qu'en usant de leur propre liberté pour accomplir les volontés divines, les parents entraînent leurs enfants à faire de même. Il faut qu'ils leur apprennent à eux aussi à user de leur propre liberté. L'être humain, Dieu le veut libre. Alors, il faut très vite que l'enfant apprenne. Je ne dis pas qu'il jouira tout de suite de l'entière liberté. Non, l'enfant est pendant un temps, en quelque sorte, aussi sous la loi. Mais bien vite, les parents, nous sommes dans l'Église, et les parents viendront à se servir des principes de l'Évangile, c'est-à-dire des principes mêmes qui reposent sur la grâce divine. Il faut que l'exemple des parents est une influence sur les enfants. Et cette influence sera certaine si la prière est aussi employée. Il est certain que la bénédiction de Dieu sera là et qu'elle agira elle aussi. Il s'établira entre les parents et les enfants une relation spirituelle allié à la relation du cœur et la tendresse des uns pour les autres prendra une force incomparable. il y a une pensée terrible. Pensons en effet que des parents chrétiens, pour n'avoir pas réellement vécu la vie nouvelle devant leurs enfants, auront laissé aller ces enfants à la perdition. Peut-être même auront-ils travaillé à la perte de ces enfants, alors que s'ils avaient vécu la vie nouvelle avec persévérance, ils auraient vu leurs enfants s'y engager eux aussi par la foi. Et nous allons lire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 1, pour parler maintenant des enfants. Et des parents aussi, bien sûr. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Il est certain que l'éducation des parents comportera une juste sévérité à l'égard de tout ce qui pourrait infléchir les jeunes cœurs hors de la voie droite. En cela encore, les parents seront les imitateurs de Dieu. Toute faiblesse à l'égard des écarts vers le péché, serait une terrible cruauté. Et nous le voyons dans l'Ancien Testament. Voyons par exemple quand Moïse dit à Aaron, « Alors, que t'a fait ce peuple ? Que t'a-t-il fait pour que tu te conduises en ennemi du peuple ? Tu l'as laissé faire. Tu l'as laissé faire, tu l'as même encouragé. Tu l'as laissé faire, qu'est-ce qu'il t'a fait ce peuple ? Tu t'es conduit en ennemi. » Vous voyez ? Eh bien, ça, on peut le dire des parents. Des parents qui ont la faiblesse d'Aaron, laissant Aaron laissant le peuple, je veux dire, faire le veau d'or, et se prêtant même à cette construction du veau d'or. Qu'est-ce qu'il t'a fait, ce peuple ? Il t'a fait quelque chose ? Des parents complaisants sont des parents cruels. Ils livrent leurs enfants à leurs mauvais penchants, et les y engage même quelquefois en fermant les yeux, en voulant ignorer, ou pire, en estimant que c'est là l'expérience nécessaire de la liberté. Alors là, n'est-ce pas, la vue de ses parents est fausse, est faussée. Il arrive aussi que des parents trouvent bon de pousser les enfants à l'orgueil. Oh, ça se voit. Heureux de les voir affirmer leur personnalité, fiers même de leurs audaces. Ah, ce petit, hein, regardez ça, hein, à son âge, hein, regardez ce dont il est capable, oui, il fait des sottises, il vomit la méchanceté, et on l'admire. Cet orgueil, un jour, se retournera contre les parents. L'éducation chrétienne consistera au contraire à leur apprendre l'humilité et la modestie. La grande difficulté pour les parents sera d'apprendre eux-mêmes, la discipline dont ils auront à user à l'égard de des enfants. Il ne faut pas, chose qui se voit aussi, que les parents s'accordent ce qu'ils refusent aux enfants. Ah, ça se voit, ça. Ah, ça se voit, parce qu'ils sont grands, les parents, alors ils s'accordent des choses, et puis ils disent aux enfants, non, ça, vous n'avez pas le droit de le faire, vous ne pouvez pas le faire. Vous. Alors là, c'est tout à fait mauvais, bien entendu. Il faut que les parents s'imposent à eux-mêmes la discipline dont ils usent à l'égard de leurs enfants. Le temps de l'enfance, je le disais tout à l'heure, est celui de l'autorité, de la loi, mais il faut passer de cette autorité, de cette loi, à la grâce, n'est-ce pas ? Passer, savoir, passer, ah, c'est tout un art, bien sûr, c'est tout un art que d'être des parents et d'avoir des chrétiens et d'avoir des enfants que l'on veut conduire à la vie. Il faut, en somme, au jeune arbre, un tuteur qui le retiennent dans la position droite, sans toutefois le blesser. Il ne faut pas que le tuteur, quand tuteur, je ne parle pas des parents, je parle de l'action éducative, et il ne faut pas que ça blesse l'enfant, le jeune arbre. Mais en utilisant la loi, il sera bon également d'introduire, c'est ça, progressivement, la grâce. C'est ce que Dieu faisait avec le peuple d'Israël. Il introduisait la grâce. J'aurai l'occasion de montrer dans le livre de l'Exode, peut-être pas à cette session, mais à celle d'août. À la base de cette discipline, il faudra donc placer la crainte de Dieu et l'obéissance par l'amour, l'obéissance provenant de l'amour. L'enfant apprendra qu'il n'est pas son maître, que sa volonté ne lui sera utile que s'il la soumet à celle de Dieu. Apprendre l'enfant à soumettre sa volonté, il a des volontés, oui, eh bien, il faut l'apprendre à soumettre cette volonté à Dieu, et d'abord aussi à celle des parents dont l'autorité vient de Dieu. Dieu a conduit les hommes à la liberté par l'obéissance, il en sera de même dans la famille. L'on conduira l'enfant à l'obéissance et à l'amour de Dieu. D'ailleurs, cet amour de Dieu est latent dans l'enfant et il s'éveillera lorsque le nom de Jésus sera prononcé, honoré, glorifié. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Je sais bien que ici, enfant fait le pendant, le contrepoids à sages et aux intelligents. Donc, c'est dans un sens figuré, mais dans le sens littéral, il faut le prendre aussi, Dieu révèle aux petits enfants. La preuve, c'est que le Seigneur Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, il leur a imposé les mains. » Que l'enfant soit donc nourri de vérité au foyer où il vit, et qu'autour de lui le Seigneur soit obéi avec amour, et lui, cet enfant, il grandira comme a grandi Jean-Baptiste, comme a grandi, mieux encore, le Seigneur Jésus, il grandira dans la crainte et l'amour de Dieu. En Jésus-Christ, il conservera la foi à travers les épreuves et les heures qui l'attendent dans l'existence. Voyons maintenant surtout le comportement des enfants. Rappelez-vous les quatre versets que nous avons lus dans Éphésiens 6. Nous pouvons ajouter 1 Jean, premier épître de Jean, chapitre 2 et verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà ici... Le Saint-Esprit s'adresse aussi à tous les âges et aux parents. L'obéissance des enfants ou des adolescents à leurs parents ne sera réelle que si elle prend naissance dans l'amour de Dieu. On en revient toujours à ça. L'amour de Dieu est à mettre à la place centrale. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, on ne pourra rien faire. Rien faire. Et s'il y a cet amour de Dieu, la victoire contre le malin au nom de Jésus-Christ sera remportée. Cette victoire sera surnaturelle, elle se traduira dans le naturel de la vie des enfants, mais elle sera d'origine surnaturelle. En obéissant à leurs parents, les enfants, petits ou grands, obéissent à Dieu. Cela surtout dans la famille chrétienne, car les parents ont reçu de Dieu une certaine délégation d'autorité qui s'exerce dans leur amour et par le moyen de leur amour pour leurs enfants. L'obéissance des enfants, alliée à leur tendresse pour leurs parents, sera de plus un témoignage offert au monde. Ah, le monde connaît beaucoup d'enfants terribles, d'enfants dissipés, d'enfants qui, à 5-6 ans, ont la bouche remplie de toutes sortes de mots orduriers. À aller dans certaines cités, n'est pas difficile, et puis croiser des enfants, leur adresser quelques mots, ils vous enverront une volée de ces mots-là, n'est-ce pas, vous serez tout de suite renseignés. Mais le monde aussi est capable de voir le contraire de cette situation et d'apprécier, d'être étonné par des enfants qui sont sages et se conduisent bien. Rien n'est plus beau et plus édifiant que cela. L'amour obéissant est celui de Jésus-Christ pour son Père. Or, en cet amour réside la perfection, la sainteté et la vie. Dans l'amour de Jésus-Christ pour son Père, amour que nous avons à partager. Pourquoi Jean écrit-il « Vous avez vaincu le malin » Parce qu'il entend exprimer que les jeunes gens qui ont connu Dieu en Jésus-Christ remplacent l'esprit de révolte et d'orgueil par un esprit de soumission. Voilà pourquoi il dit « Vous avez vaincu le malin ». Il remplace les manifestations égoïstes par celle de l'amour. Il remplace l'esprit du monde par l'esprit de sainteté, et cela se voit déjà. C'est pourquoi Jean dit, vous avez, jeunes gens, vous avez vaincu le mal. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Il ne faudrait pas se méprendre sur cette affirmation. Il ne s'agit ici que de cette force que donne la parole de Dieu gardée, force qui se manifeste dans la victoire sur le malin. Les jeunes chrétiens ont donc à considérer cette force et qu'ils peuvent maintenir en eux-mêmes dans la lutte contre les tentations et les suggestions du malin. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes dans le temps glorieux de la grâce. Mais au contraire, ils sont unis à l'esprit vivifiant qui porte en lui la force invincible de toutes les victoires. Nous allons maintenant, comme je l'ai indiqué sur mon programme, parler un peu de la prospérité familiale. Dans le psaume 118, le verset 25. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Donne la prospérité. Il y a une aspiration à la prospérité. Et dans Ésaïe 45, ce beau passage auquel j'aime souvent revenir, versets 7 et 8, « Je forme la lumière et je crée les ténèbres, je donne la prospérité et je crée l'adversité. » Le mot « prospérité » peut revêtir, certes, le sens habituel, ou bien aussi le sens attaché aux choses spirituelles. Il est fréquent qu'une famille chrétienne connaisse la prospérité matérielle. L'apôtre Paul lui-même, dans 1 Corinthiens 16, y fait allusion, et cela se voit dans la pratique. C'est encore là une manifestation de la bonté de Dieu qui donne, s'il le faut, la prospérité. Mais toute aisance, honnêtement venue, il ne peut pas s'agir d'une autre, provient de la grâce de Dieu. Cependant, la prospérité va constituer un grand danger. Lorsque, au lieu de la recevoir avec action de grâce, et au lieu d'en user avec modération et sagesse, on va se laisser tromper et séduire par cette aisance. La vie présente, largement assurée et comblée de biens matériels, peut induire les cœurs en une tragique erreur. Cela en les éloignant de l'humilité, de la modestie et de la piété, en prenant, par exemple, les effets d'un mirage. Prospérité, on a de plus en plus de ressources, de biens, on peut acheter, on peut meubler sa maison, on peut faire ceci, cela, faire un tas de choses. Alors, il y a là, bien sûr, les effets d'un mirage. Il y a aussi le danger que cette prospérité fasse naître des illusions pernicieuses et que ce danger soit d'attacher à nouveau les âmes aux choses terrestres. J'ai lutté ici il y a quelques années contre une prédication ou un enseignement venu d'Amérique, contre lequel je m'élevais, et fort heureusement, on s'est aperçu dans le mouvement quel danger c'était, et on a rejeté cette source. On nous promettait, en effet, n'est-ce pas, l'abondance des biens, de belles maisons, de magnifiques voitures, etc., etc. Et ce n'est pas ainsi que parle l'Écriture. Même si Dieu les donne, Dieu ne nous les donne pas pour que nous en soyons exaltés. Aussi faut-il vraiment une foi solide et une profonde sagesse spirituelle pour vivre chrétiennement au sein de la prospérité, et qui se présente alors comme une épreuve. Salomon, au sein de sa grande prospérité, il avait reçu la sagesse, mais Dieu avait voulu lui donner aussi l'épreuve de cette sagesse, le milieu dans lequel cette sagesse allait être éprouvée, et vous savez comment il a succombé. Tout naturellement, la prospérité engendre un sentiment de bonheur et de satisfaction dont la chair est friande. On arrive assez souvent à confondre ce bonheur venu de l'aisance avec celui qui découle de la communion avec le Seigneur, et l'on tombe dans une sorte d'assoupissement de la conscience chrétienne. Celle-ci, alors, est en quelque sorte abusée. La conscience chrétienne finit par être abusée. Bonheur, bonheur, mais on ne se rend pas compte qu'en réalité, ce qu'on goûte, c'est ce bonheur qui vient de l'aisance dont on jouit, bien plus que du bonheur qui nous vient de la paix avec Dieu. Le cœur tend à perdre sa sensibilité. Sans l'exprimer, le chrétien qui savoure sa prospérité suit la pensée de cet homme qui disait dans une parabole du Seigneur, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange, bois et te réjouis. » Le Seigneur ne nous a pas dit ça pour que nous suivions ce que fait cet homme, mais au contraire, que nous réfléchissions à ce qu'a ajouté le Seigneur. Tu ne sais pas, malheureux, que ton âme, cette nuit même, va être redemandée. Le contentement de la vie, contentement dont la chair est avide, venant d'une félicité extérieure, est donc un piège redoutable. C'est le bonheur que le chrétien doit goûter avec la plus grande sagesse, mais celui qui importe est le bonheur provenant de la joie et de la paix, accompagnant la vie nouvelle en Christ. Le contentement de la vie supprime en effet la réalité des aspirations au règne éternel. le bonheur temporel se substituant au bonheur intérieur et à la recherche du royaume de Dieu. Il n'y a pas si longtemps qu'un chrétien, c'est peut-être l'année dernière, venu ici avec qui je m'entretenais et qui était assez gâté sous le rapport de la des disponibilités, me disait, oui, certes, j'aspire à la vie éternelle, oui, bien sûr, je veux, mais je ne peux pas m'empêcher quand même d'être assez satisfait, assez content de ce que je peux faire ici, et vraiment, j'apprécie bien. Alors je lui dis, vous appréciez trop. Cela nous fait comprendre le bien fondé de cette instruction. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les joies de la terre font oublier le ciel, et cet oubli est tout simplement une mort. En conséquence, la famille chrétienne engagée dans la prospérité, et je dis cela parce que j'ai l'impression, je ne fais pas de statistiques, mais tout de même, en parlant aux uns et aux autres, j'ai l'impression que tout le monde aujourd'hui a sa bonne petite aisance, plus ou moins large peut-être, mais tout le monde, quelqu'un me dira, j'ai une bonne petite retraite. Ah oui, j'ai une petite retraite bien agréable, je peux faire tout ce qu'il me faut. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire, n'est-ce pas, que véritablement, il y a peu de gens qui manquent, surtout dans le monde chrétien. Les chrétiens ont en plus la bénédiction du Seigneur, et puis leurs petites affaires se sont bien arrangées. Alors attention à cette prospérité que l'on goûte trop. Et la famille chrétienne elle-même, dans son ensemble, si elle jouit de la prospérité, doit savoir échapper à la séduction du bonheur de l'existence, et pour cela, une vigilance particulière lui sera nécessaire. Et surtout, la prospérité matérielle et le bonheur familial, ce ne sont pas à rejeter, certes, mais ils devront être des moyens de servir le Seigneur et de manifester les formes de zèle qui seront les plus utiles. Et nous allons maintenant conclure notre étude de ces trois jours en lisant 1 Corinthiens, chapitre 7 et verset 29. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. C'est un risque. Il y a, mais de même, une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit, et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction, sans en être distrait de cet attachement. La famille, tout comme les individus, traverse une histoire, c'est-à-dire une succession d'événements qui va bientôt aboutir à une fin. La figure de ce monde passe. Ce monde n'est qu'une suite d'images, d'apparences, de faits sans valeur, de faits qui vont se perdre. Et le chrétien ne saurait donc y attacher son âme si il veut se faire l'esclave du monde, il ne pourra pas, certes, prendre soin en même temps de son âme. Au fil des différentes situations rencontrées, rien ne compte, que de plaire au Seigneur et de s'attacher à lui sans distraction, nous dit la parole, c'est-à-dire sans se laisser détourner de cette visée, de plaire au Seigneur et de s'attacher à lui. Tel est le principe de vie du chrétien et de la famille chrétienne, dont les membres se sentent solidaires les uns des autres et doivent avoir un commun désir de travailler ensemble au salut de chacun des membres de la famille. La famille chrétienne apparaît comme un grand bienfait de Dieu. Il est certain que le Seigneur se sert d'elle et il veut se servir d'elle. La famille chrétienne doit le savoir. Le Seigneur va se servir d'elle. Tant que pour chacun de ses membres, il y ait bénédiction, aide venant d'en haut, et que chaque membre de cette famille puisse faire rayonner à l'extérieur l'amour de Dieu, l'obéissance, la sainteté venant de Dieu. Rappelons-nous ce mot de l'apôtre Paul dans le livre des Actes, dans une circonstance, je terminerai là-dessus. Paul, qui est dans la prison, dit aux gardiens, aux geôliers, « Crois, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ce qui n'est pas une promesse formelle, radicale, mais ce qui est une direction. Ce qui veut dire, si tu crois, toi, eh bien, tu seras sauvé en raison de ta foi. Mais ta foi va se répandre sur les tiens. Et que va-t-elle faire, cette foi, en se répandant? Mais elle va se communiquer aux tiens. Le Seigneur t'aidera en cela, te bénira, et tu vas attirer sur ta famille une grâce sanctifiante, et une bénédiction, et la bonté du Seigneur. Et en définitive, eh bien, ce qu'il peut arriver, c'est que ta famille tout entière soit sauvée. Voilà ce que l'apôtre Paul entend dire, pas autre chose. Il ne dit pas qu'automatiquement, par la foi du chef de famille, toute la famille est sauvée, mais il veut dire ce que je viens de vous expliquer. Par cette foi, tu attires sur ta famille une bénédiction, la bonté de Dieu qui va s'exercer, et tu peux arriver, alors là tu es en mesure d'arriver à ce magnifique résultat, que toute ta famille sera sauvée, et combien d'exemples nous avons de cela. Ce n'est pas une promesse rigide, formelle, c'est une direction de Dieu, et il faut que nous y pensions. Que le Seigneur vous bénisse en tout cela. Amen.